Bonjour et merci d'écouter CFM Radio, c'est Jacques. Nous sommes mercredi et mercredi, c'est éducatif aujourd'hui avec au programme le second numéro de Carnet de correspondance, l'émission de CFM Radio qui est centrée sur les questions éducatives et pédagogiques. Et avec moi dans quelques minutes, Jean-Marc Robin, le principal du Collège de Cordes, mais qui est également sociologue de formation et auteur de nombreux ouvrages sur l'école et le métier d'enseignant. Aujourd'hui, il sera question de tirer le portrait en quelque sorte du collège, le collège d'aujourd'hui, le collège contemporain. C'est un diagnostic que l'on vous propose avec à la fois des fragilités et des forces pour entrevoir un peu mieux à quoi pourrait ressembler un collège demain. Et puis Camille Allard du centre social de Carmo, la Casa, un centre social qui a une nouvelle identité, un nouveau nom, un nouveau lieu, au 32 Terre de l'avenue Bouloc-Torcatis à Carmo, un lieu qui ouvre ses porte au public ce samedi après-midi. Camille Allard est dans le coup de projecteur de la rédaction à suivre d'ici une vingtaine de minutes.
Pouvez-vous me parler de l'âge de pierre ?
Alors, l'âge de pierre, c'est à peu près vers les 30-35 ans. Enfin, c'est un apôtre du Christ, donc oui, à peu près 30-35 ans.
Ah ben oui, pierre.
Ouais.
Alors, l'âge du bronze, vous situez ça comment ?
Je dirais entre 50 et 55.
Dites-moi pourquoi Jules César était considéré comme un dictateur.
Donc il était considéré comme un dictateur parce qu'il était très capable de dicter plusieurs lettres en même temps, à la fois, d'un coup.
Il était très rapide.
Oui.
Quelle est la taille de Hong Kong ?
10 mètres peut-être, un peu plus. Très très grand.
10 mètres, oui. Très bien. Merci.
Bien, 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 bien. Hé, hé, hé. On se calme maintenant.
Il fallait que je... Kumba.
Fus.
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 Eh oui. Mais vous croyez vraiment je vais aller voir ma mère, je dirais il fallait que je sois fus.
Bah ouais, c'est dans le Moyen-Âge, ça.
Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Est-ce que je peux répondre à la question qui m'est posée ?
Je vous autorise.
La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence l'imparfait subjonctif, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Commencez par le maîtriser et après vous pourrez remettre en cause le fait qu'on l'utilise.
Il y a marqué là, regardez bien ce qu'il y a marqué.
Ouais.
Si ce que tu as à dire n'est pas plus important que le silence, alors tais-toi.
Eh oui, les sonneries de collège, ce n'est plus ce que c'était, mesdames, messieurs. Bonjour, vous écoutez Carnet de correspondance, une émission bimensuelle de CFM Radio en partenariat avec le Collège Valsérou de Cordes-sur-Sièze. Je suis en compagnie de Jean-Marc Robin, qui est avec moi en studio. Jean-Marc,
bonjour,
salut.
Bonjour, Jacques, salut.
Alors, aujourd'hui, Jean-Marc, nous allons parler du collège. Non seulement le collège mais d'aujourd'hui, faire une espèce de focus un peu sur le collège aujourd'hui, mais on va essayer d'avoir quelques solutions aussi, quelques idées pour le collège de demain. Le sujet, il est vaste, il est large. On va commencer tout de suite, Jean-Marc, si tu veux bien, à parler un peu de celui que le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, présente comme étant l'homme.
Moi, je ne parlerais peut-être pas d'homme malade, hein. C'est l'expression du ministre de l'Éducation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le collège est frappé par un certain nombre de fragilités. La première fragilité, c'est les performances, qui sont très inégales selon les élèves. En fait, au collège, c'est vraiment un monde d'hétérogénéité. Tu as 50% des élèves de collège pour qui ça se passe très bien, ils vont faire une belle poursuite en lycée général technologique. Et puis après, on a un quart d'élèves qui sont vraiment en grande fragilité et qui arrivent déjà avec des bases très fragiles de l'école primaire. Alors moi, je ne jette pas du tout l'opprobre sur mes collègues du premier degré, mais c'est vrai qu'on note des fragilités. Et avant, le collège, il arrivait un peu à redresser, à corriger un peu ces écarts de performance scolaire. Et maintenant, on n'y arrive plus, voire même elles se creusent. Donc là, c'est vrai que de ce point de vue-là, le ministre, il a raison, il faut faire quelque chose. Mmh. Et d'ailleurs, pour nos auditeurs qui ont suivi un petit peu l'actualité, en classe de 6e, il va y avoir une heure de plus pour le soutien en français et en mathématiques et les devoirs faits. Ce dispositif des devoirs faits qui était sur la base du volontariat va devenir obligatoire pour les élèves de 6e, et c'est très bien. Donc voilà, donc il y a effectivement des fragilités, des écarts entre élèves. Après, il y a des écarts aussi très importants entre établissements. Notre ministère a mis en place a mis au point un indice qu'on appelle l'IPS, indice de position sociale, qui permet de mesurer, disons, la sociologie de chaque établissement. Alors, le repère, c'est 100. C'est-à-dire, si un établissement a 100, c'est qu'il est dans la moyenne départementale, pour faire simple. Si je prends le collège de Cordes, nous, on est à 113. Si je prends le collège d'Alban, où j'ai travaillé pendant 2 ans, on était à 99. Et donc, tu peux avoir des écarts de réussite en fonction de l'indice de position sociale. Donc, ce qu'on sait, c'est que quand les élèves ont un recrutement, disons, un peu privilégié, avec voilà, des enfants de cadres, d'ingénieurs, ben, le niveau est un peu plus élevé et ça tire tout le monde vers le haut.
Vers le haut, un peu.
Voilà, mm-hmm. Donc c'est toute la question de la mixité sociale qui est posée au collège. Et c'est vrai qu'il faut y réfléchir et s'atteler à la tâche de façon à renforcer la mixité sociale. En plus, on sait qu'il y a une problématique aussi dans notre système éducatif, c'est qu'il y a un service public d'éducation hein, qui est coupé en deux, avec des écoles dites privées mais qui sont financées par l'État, et puis des écoles publiques. Et c'est vrai qu'il y a des écarts très importants entre les écoles privées et publiques en termes de sociologie et aussi donc hein, de performance scolaire. Donc effectivement, du côté de la performance, il y a du travail à faire.
Il y a du travail à faire,
ah, oui, ouais, il y a du boulot.
Mais dis-moi, il y a une chose quand même, parce que moi je viens d'une société, voire plutôt d'une culture où on a encore le droit mais de retaper, de redoubler. Aujourd'hui, on ne redouble ni en primaire, ni au collège. Un enfant qui ne mérite pas de passer en cinquième, pourquoi est-ce qu'on le fait passer ?
Alors, concrètement, on a changé de culture. Alors, on s'est aperçu, en fait, et ça, c'est très sérieux avec les études statistiques, que les enfants qui redoublaient n'arrivaient pas, pour une grande partie, mm-hmm. attention, hein, à récupérer leur niveau, et même ils se sentaient stigmatisés. Ça pouvait même, au contraire, les démotiver. Bon, en plus, ça coûte un peu d'argent, hein, faut se dire aussi des choses. Mais le redoublement, aujourd'hui, c'est pas la solution au décrochage scolaire. Alors, comment on le traite au collège ? Alors, soit par des dispositifs de soutien, et je pense qu'il faut renforcer ça, hein, et c'est un peu l'esprit du ministre, hein, renforcer le tutorat, renforcer l'aide aux élèves en difficulté. Et puis, on le traite aussi, il faut dire les choses, hein, par l'orientation. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre système éducatif, bah, les élèves qui sont un peu fragiles, on va plutôt voilà, les orienter vers l'enseignement professionnel. Pourquoi ? Parce que là, l'enseignement sera moins académique et qu'ils pourront se refaire une santé grâce à des enseignements professionnels en apprenant en atelier ou en faisant des périodes de formation d'entreprise. Et c'est vrai qu'on ne le dit jamais, on critique. Par exemple, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les collègues du lycée professionnel parce qu'ils font un boulot très important. Ils récupèrent souvent des élèves un peu fragiles sur le plan scolaire, des élèves qui sont un peu démotivés. Ils arrivent à les remettre en selle autour d'un beau métier avec... Ils font un boulot extraordinaire. On devrait vraiment... ce lycée professionnel, c'est une chance hein, pour...
Mais c'est
pour
peut-être parce que souvent, on voit directement la finalité des choses. Je saute plein d'étapes parce que c'est celle-là qui m'a marqué. Quand on est au lycée, qu'on apprend des trucs sur les factoriels, les tangentes, les machins, qu'on ne sait pas exactement à quoi ça sert, finalement, on le prend un peu par-dessus la jambe. Lorsqu'on est en lycée professionnel, lycée technique, que l'on voit au collège, hein, que l'on voit directement ce que ces mêmes peuvent faire, ben, ça nous donne beaucoup plus de motivation. Mais je me note quand même, hein, parce qu'on s'est dit, en faisant aussi les émissions, qu'on trouve des idées. Là, moi, je me note soutien ou redoublement. J'aimerais vraiment qu'on consacre un jour une chronique sur toutes ces questions qui sont liées aussi, mais finalement, à l'orientation, à la manière des fois aussi d'accompagner des collégiens. Donc, on a commencé, Jean-Marc, à parler du collège d'aujourd'hui. Mmh. Tu as parlé des performances inégales, du recul des compétences dans différentes matières aussi. Est-ce qu'il y a d'autres...
Alors, en fait, si on regarde du côté des compétences des élèves, clairement, en français, en expression écrite, en orthographe, ben, le niveau n'y est plus. Hein. Quand on fait faire une dictée, tout le monde le dit, et c'est une vérité, hein. Quand on fait faire une dictée aujourd'hui aux jeunes, ils font 2 fois plus de fautes. Et plus grave encore, c'est que certains ont du mal à produire du texte, hein, c'est-à-dire à finalement avoir une pensée continue. Donc là, je pense qu'il faut que nous, on redresse la chose. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça et je me suis dit que c'était pas la faute qu'au numérique, hein, c'est aussi parce que nous-mêmes, moi, c'est ce que j'appelle la pédagogie de la fichounette. C'est-à-dire que dans ce monde de photocopies, on donne beaucoup de photocopies à nos élèves, hein, et avec des petits textes à trous, voilà. Donc il faut qu'on revienne sur produire du texte, consacrer du temps à l'écriture, même recopier un texte. Et là, je pense qu'on a fait peut-être une erreur un peu pédagogique en développant trop, je dirais, un truc un peu à l'américaine, des exercices à trous, des QCM. Et ça, c'est pas très bon, quoi. Il faut plutôt entraîner les élèves à écrire. Et en plus, les élèves, ils aiment bien écrire. Mais ça demande du temps aussi.
Du temps, ouais.
Ça demande du temps. Ouais. Et je pense que la responsabilité du système, c'est que On demande beaucoup aux professeurs. Enfin, moi, je vois les profs, ils sont engagés dans leur boulot, hein, franchement. Mais on ne peut pas leur demander de boucler des programmes qui sont trop riches parfois et en même temps de travailler le cœur de ces apprentissages. Moi, ce que j'aimerais, et on en parlera tout à l'heure, hein, c'est qu'on fasse confiance aux profs et qu'on détermine un programme peut-être moins ambitieux sur le plan académique, mais plus ambitieux sur le plan des compétences profondes et qu'on laisse le temps. Moi, je discute beaucoup avec les profs de français, ils me disent « mais il nous faut du temps ». Et je dis « vous avez raison ». Hein, pour apprendre à rédiger un texte, structurer une phrase, structurer une pensée, ça demande du temps qu'on laisse nos collègues travailler ça et ils ont tout à fait les compétences pour le faire. Alors en français, ça a reculé, on le sait. Bon, ça a reculé aussi en mathématiques, hein, faut le dire. Donc c'est vrai que là, il faut un peu qu'on redresse le collège de ce point de vue-là. Après, si on parlait des fragilités du collège, il y a une autre fragilité du collège, c'est aussi le vivre ensemble. Ben, il faut le dire, le collège, c'est pas le moment... ou même dans des petits collèges comme au Corde-sur-Ciel, la fraternité, elle rayonne pas tous les jours. Hein.
Ah donc, ouais, tu trouves, ouais.
Ouais, ouais, moi je suis toujours un peu, oui, toujours un peu surpris que les élèves parfois dans leur façon de se parler, leur façon de communiquer, je trouve que la communication, elle est, ouais, elle est tendue, elle est un peu violente.
Et, mais et, ça reflète beaucoup de choses, tout
oui,
ça, j'en remarque.
Une société hein. Très très tendue, mais je pense aussi que nous, il faudrait qu'on fasse le boulot parce qu'on ne peut pas demander aux élèves d'apprendre par eux-mêmes. Il faut qu'on leur enseigne à se parler avec bienveillance. Mmh. Voilà, je pense que là, on a un boulot à faire. Aujourd'hui, il y a une belle réflexion sur ce qu'on appelle les compétences psychosociales, hein, de dire que le boulot de l'école, c'est bien sûr l'instruction, mais c'est surtout au niveau du collège, hein, je parle au niveau du collège, de poser les bases de compétences psychosociales, gérer ses émotions, interagir avec les autres. Quand on a un différent camarade, bah, ne pas utiliser l'insulte, par exemple, qui est la voie de la facilité. Donc, il faut qu'on arrive à éduquer les élèves par rapport à ça. Et par conséquent, il faut qu'on forme les professeurs aussi à transmettre ça. Parce que nous, on n'est pas formés à ça. On apprend sur le tas. Et il faut vraiment qu'on fasse un effort là-dessus, ce qu'on appelle les compétences psychosociales, qui sont tellement essentielles aujourd'hui. Hein.
Mais là, les parents aussi ont un rôle essentiel à jouer, parce que si tout se joue uniquement à partir du portail d'entrée du collège, mais c'est compliqué quand même. Là. Mais ah bah comment là, mêler les parents à l'histoire?
Bah là, tu as parfaitement raison. Hein. Je veux dire qu'on parle beaucoup de coéducation. Il faut vraiment que parents et professeurs, on travaille auprès des élèves, justement, à leur apprendre à communiquer de façon bienveillante. Voilà, je veux dire... Comme je le dis, il faut une communication assertive. Alors, c'est un mot un peu complexe qui consiste à dire, on dit ce qu'on a sur le cœur, hein, si on se sent victime d'injustice ou de quoi que ce soit, mais il faut apprendre à le dire au bon moment, il faut apprendre à le dire avec tact, avec diplomatie. Et tout ça, c'est très important parce qu'on le voit même dans le monde des adultes. Hein, les gens sont capables de se bagarrer, de s'insulter parce que pour une place de parking ou pour... Enfin, je sais pas. Enfin, c'est assez dramatique tout ça. Et je pense que les gens ont un peu marre de ça. On aimerait avoir une société un peu plus fraternelle, où il y a un peu plus de savoir-vivre. Et ça, c'est. Tu as raison de le dire. Hein. C'est le rôle de la société. Hein. Je veux dire des clubs de foot, de l'école, de la famille, des médias aussi. Il y a certains médias qui pratiquent beaucoup l'invective et puis le clash, et puis etc.
Ah, c'est sûr.
Ouais. Je suis pas sûr que ce soit de bons modèles. Quoi, hein. Hein, ouais, parce que le clash, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaye un peu d'enfoncer l'autre, de l'humilier. Bon, je ne parle pas aussi parfois du spectacle triste que nous offrent les politiques quand ils se coupent la parole. Tout ça, ça participe voilà, ça ne développe pas ce savoir-vivre qui est vraiment essentiel.
Toujours est-il que ça ne signifie pas non plus que les années du collège se passent mal. Moi, personnellement, même si je n'ai pas fait mon collège en France ni en Europe, je garde de très bons souvenirs de mon collège. Et je sais, pour en discuter avec des copains ici aussi, qu'il y a beaucoup de gens qui presque même regrettent leur collège.
Oui, je pense que voilà, il faut dire les choses sur les fragilités du collège, mais aussi il y a beaucoup d'atouts. On fait des sorties pédagogiques. Après le Covid, on va relancer par exemple au collège de Cordes les voyages. On commence par l'Allemagne, mais on va aussi, on y travaille en ce moment avec Monsieur Millan sur l'Espagne. Donc on fait de belles choses. Je parlais de la journée hip-hop qu'on a fait là avec les Cordées de la Réussite. Donc il y a vraiment beaucoup d'ouverture culturelle, il y a beaucoup de choses très sympas qu'on fait avec les élèves.
Ouais.
Et ça reste une expérience très riche. Et au collège, les professeurs, parce que la taille de l'établissement est souvent plus petite qu'un lycée, hein, ils connaissent bien les adolescents. Et moi je vois en classe de 3e, Bon, vraiment, il y a un grand plaisir à être ensemble. Hein. Vraiment, il y a un très grand plaisir à être ensemble. Donc, l'expérience du collège reste très positive pour beaucoup d'élèves. Mais de temps en temps, ben, voilà, il y a des petits accros et c'est à nous, les adultes, de le traiter, quoi.
CFM. CFM Radio. CFM Cordes.
Vous écoutez Carnet de correspondance sur CFM Radio, l'émission qui vous ouvre les portes des collèges en grand. On retourne au collège pour parler de pédagogie, pour parler d'éducation, de vie dans un collège, parce que parmi vous, auditeurs, il y a peut-être déjà des anciens collégiens, il y a peut-être des parents d'élèves, il y a peut-être des futurs à se lancer dans des concours de l'éducation nationale, mais il y a aussi des gens qui sont frustrés pour X raisons, pour à tort ou à raison aussi, hein, je vais doubler la chose, par rapport aux liens qu'ils ont avec les enseignants du collège, par rapport à l'image qu'ils ont du collège. Voilà la raison pour laquelle Jean-Marc et moi, on vous propose de nous retrouver sur les ondes comme ça pour parler de sujets en lien avec l'éducation nationale, avec le collège en particulier. Si en première partie de notre entretien, Jean-Marc, on a plus fait un état des lieux du collège d'aujourd'hui, on a aussi parlé des souvenirs que l'on garde de notre passage au collège. J'aimerais, pour terminer, Jean-Marc, que l'on précise exactement qu'est-ce qui a changé au collège aujourd'hui.
Alors en fait, les gens ne s'en rappellent plus, mais le collège a eu une grosse réforme du collège en 2016. Cette réforme, elle a donné un peu plus d'autonomie aux établissements scolaires. Alors, concrètement, les élèves ont 26 heures de cours, hein, pour faire simple, ça c'est les enseignements réglementaires, et chaque établissement a à peu près 3 heures d'autonomie par division, par classe, pour faire un projet d'établissement. Alors nous, par exemple, au collège de Cordes-sur-Ciel, on va développer l'allemand avec la langue et culture européenne, hein, par exemple, le latin. On va essayer de voir si on peut aussi poursuivre notre action dans le domaine des arts. Donc en fait, chaque établissement a les moyens de conduire un petit projet d'établissement et de faire des arbitrages. Par exemple, à certains collèges, on peut avoir des classes à aménager théâtre ou musique. On peut avoir des dispositifs spécifiques. Donc voilà, ce qui a changé, c'est que aujourd'hui, le projet d'établissement est de plus en plus au cœur de ce qu'on propose aux élèves et aux familles. Ça, c'est vraiment très important de comprendre.
C'est le socle, quoi.
C'est ça. Donc, il y a une partie réglementaire, donc, qui est commune à tous les établissements, et puis une partie spécifique qui dépend un petit peu du projet qui doit être discuté avec les parents et puis avec les élèves. Ce qui a changé depuis 2016 aussi, c'est que, on ne s'en rappelle pas parce qu'on a la mémoire courte, c'est qu'avant, on commençait la deuxième langue vivante en classe de quatrième. Et la ministre de l'époque, hein, Madame Belkacem, elle a souhaité qu'on commence la deuxième langue vivante en classe de cinquième. Ça, c'est pas rien. On gagne un an d'apprentissage.
Un an, oui, oui. Donc, voilà. C'est tout ce qui est allemand, espagnol, italien notamment. Hein, c'est les principales
deuxièmes
langues.
C'est ça, en fonction de l'offre du collège.
Oui.
Nous, ici, on a la chance à Cordes d'avoir soit un choix espagnol ou allemand. Bon, certains parents me disent, mais est-ce qu'on peut pas faire trois langues? Je dis, j'aimerais bien, mais bon.
Ça fait lourd quand même.
Ouais, ça fait lourd, et puis c'est pas réglementaire en plus. Mais en tout cas, on peut faire du latin. Donc en fait, on commence plutôt les langues vivantes. Par exemple, tout à l'heure, on disait le niveau baisse. Ben non, en langue vivante, il augmente. Alors il est pas là où on le souhaiterait, c'est sûr, hein. Par exemple, notamment en anglais, on a pu le mesurer avec des tests comme EvaLang, mais le niveau des jeunes générations en anglais a progressé petit à petit.
Oui,
voilà,
oui.
Il a progressé.
Mais il y a peut-être d'autres facteurs qui sont en lien aussi, hein, que ce soit les jeux vidéo, Internet, etc. Ça y participe.
Absolument.
Indirectement, mais tant mieux.
Absolument. Ben moi, à titre personnel, je vois mes enfants aujourd'hui, avec l'Union européenne, ils peuvent partir dans le cadre des échanges. Donc là, évidemment, ils peuvent développer des compétences très profondes. Alors, pour revenir au collège, donc, il y a cette langue vivante qu'on commence en classe de 5e, hein, depuis 2016. Il y a aussi un petit peu d'accompagnement personnalisé aussi, hein, pour les élèves en difficulté pour faire de l'approfondissement. Par exemple, nous, au collège de Cordes, on a décidé de faire un peu d'accompagnement personnalisé en classe de 3e pour l'éducation et l'orientation. Aider les élèves à rédiger un CV, une lettre de motivation, leur expliquer les parcours après le collège, etc. Il y a aussi le collège, en fait, il a une double mission, une mission d'instruction, puis une mission d'éducation. Et dans la réforme de 2016, hein, il y avait l'idée qu'on allait faire, à côté des programmes, on allait faire des parcours. Et il y a plusieurs parcours. Il y a un parcours culturel et artistique que chaque établissement doit renforcer. Il y a beaucoup de belles initiatives qui sont prises dans ce domaine-là. Un parcours santé, hein, et un parcours citoyen. Et ce qu'on appelle le parcours avenir, c'est l'éducation en orientation. En ce moment, le système met l'accent sur, et c'est le souhait du ministère, hein, du ministre, qu'on renforce un petit peu l'éducation à l'orientation, l'éducation culturelle. Et j'aimerais dire que s'agissant de l'éducation culturelle, on nous en donne de plus en plus les moyens.
C'est là où j'allais en venir, parce que tu me parles de beaucoup de choses là quand même, mais j'avais déjà marqué moyen, point d'interrogation.
Ben oui, parce que en fait, par exemple, on a un dispositif qui s'appelle le Pass Culture, qui va faire en sorte que chaque établissement aura un petit budget pour qu'on puisse mettre en place des projets pour les élèves de 4e et de 3e. Mmh. Et à la rentrée prochaine, on va avoir des moyens supplémentaires pour les élèves de 6e et 5e.
C'est à peu près de quel ordre par
élève? Si je prends mon établissement, on va être de l'ordre, c'est 4000 euros quand même. Hein. Alors concrètement, comment ça passe?
Par élève?
Non, pour l'établissement.
Pour l'établissement, d'accord, ok.
Donc 4000 euros, ça veut dire que concrètement, je ne puisse pas dans la caisse du collège pour faire venir des artistes, pour aller voir des spectacles. Et l'année prochaine, je vais avoir un budget qui va augmenter pour pouvoir faire encore plus de choses vis-à-vis de nos élèves de 6e et 5e. Alors nous, ce dispositif, on l'appelle ADAGE, hein. Mais bon, c'est spécifique à l'éducation nationale, mais on nous donne un peu plus les moyens.
D'accord.
Et puis après, on en reparlera. Mm-hmm. Il y a un appel à projet national qui est quand même assez considérable qu'a souhaité le président de la République, hein, puisque sur 5 ans, on va mettre 500 millions d'euros pour aider les établissements à innover sur le plan pédagogique. Alors, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'éducation et de l'orientation. Donc nous, alors on ne va pas être les seuls, hein. On va être très très nombreux à le faire. Hein. On va répondre à cet appel à projet. Et moi, je souhaite, hein, pour le Collège de Corde, qu'on puisse développer tout ce qui est parcours culturel en particulier, ou parcours citoyen. Donc, faut pas dire que l'école manque toujours de moyens. Alors, bien sûr, s'agissant de l'école...
Après, c'est relatif quand même, voilà. Parce que bon, l'éducation nationale a 500 millions d'euros, je m'excuse, mais en face, le ministère de la Défense, il a 413 milliards. Donc,
oui, alors D'abord, je veux te rappeler quand même que le ministère de l'Éducation, c'est le premier budget. On est à 50 milliards pour l'enseignement secondaire.
C'est vrai.
Et puis, je vais rappeler à nos amis contribuables auditeurs que ce que coûte la scolarité. On investit beaucoup d'argent, hein, contrairement à ce qu'on pense. Un collégien, si moi j'étais dans une école purement privée, je demanderais à chaque parent de me faire un chèque de 9000 euros. C'est ce que coûte la scolarité un an. Donc tu vois, les enfants... Ça calme tout le monde, de l'autre côté. Nos jeunes, ils sortent du système scolaire à 20 ans en moyenne. Le collège coûte 9000 euros, le lycée coûte 11000 euros. Alors c'est vrai que nos collègues du premier degré, c'est vrai qu'ils ont un peu raison... Bon, ben voilà, jusqu'à maintenant, le ministère était un peu chiche, quoi. Hein, 5 000, 6 000 euros, c'était pas suffisant pour le premier degré. Les classes prépa coûtent 15 000 euros par an. Donc, en fait, la nation, hein, nous tous, on fait un effort assez considérable pour l'école. Alors, moi, en tant que chef d'établissement, je vais pas te dire que j'aimerais pas avoir un petit peu plus, hein. Parce qu'on a de sacrés défis, mais on peut pas dire que la France n'investit pas pour son école, ça c'est pas vrai quand même. Hein. Je veux dire, c'est des sommes assez considérables. Ce qu'on aimerait bien, c'est que, en fait, moi, comme chef d'établissement, plus que le budget, ce que j'aimerais bien, c'est que on puisse renouer avec une certaine attractivité des métiers de l'enseignement. Hein, voilà, c'est-à-dire que on est des jeunes qui viennent partager cette passion pour l'école et qu'on les rémunère comme on devrait les rémunérer. J'ai un bac plus 5. Bon, c'est pas très sérieux de payer un bac plus 5 à 1800 euros aujourd'hui, quoi. Voilà, il faut quand même que... Alors j'espère que... Tu sais que ça fait l'objet de négociations. Hein, j'espère qu'il y aura vraiment un bel effort du ministère par rapport à ça, parce que moi, je le sais, il suffit pas d'aimer l'école, hein, aujourd'hui, hein, avec tous les problèmes qu'on a. Il faut aussi pouvoir vivre de son métier et le métier d'enseignant, c'est un métier qui doit être reconnu. Donc, quand on a passé la réforme de Bac plus 3 à Bac plus 5, eh bien, on aurait dû faire ce petit delta aussi, d'augmenter
un peu les salaires. Ouais.
Voilà.
Bon, il n'y a pas que là. Hein. Tout simplement, les salaires devraient être indexés à l'inflation, ne serait-ce que ça déjà. Et après, on pourra discuter du reste.
Alors ça, je ne vais pas te le dire, le contraire. Moi, à titre personnel, j'aimerais bien que mon salaire, qui est joué
c'est un minimum, quoi. Voilà, au moins à l'inflation, après le reste, c'est autre chose, quoi.
Bon, je crois qu'on va être très nombreux parmi les auditeurs à se dire...
Franchement, celui qui n'est pas d'accord là... Celui qui n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit là, je l'attends vraiment à CFM Cordy pourra venir m'expliquer ses arguments. En tout cas là, Jean-Marc, on a dressé un tant soit peu un constat sur le collège d'aujourd'hui. Bien évidemment, on n'a pas parlé de tout. J'imagine les auditeurs de l'autre côté qui ont d'autres arguments, d'autres raisons pour dire que le collège d'aujourd'hui, c'est de telle ou telle manière. En tout cas, j'aimerais que la prochaine fois que l'on se retrouve ici dans le studio, donc c'est dans 2 semaines, hein, on va parler du collège de demain aussi.
Parce que c'est intéressant et pour boucler cette histoire du collège à changer, ce que j'aimerais dire, c'est que beaucoup de parents gardent justement des représentations un peu datées et erronées. Par exemple, Si on prend le brevet des collèges, aujourd'hui, c'est devenu un petit bac. Mmh. Hein, parce qu'on fait passer, tiens-toi bien, une épreuve de français, une épreuve d'histoire-géographie, une épreuve de mathématiques, une épreuve de sciences, un SVT, technologie ou physique-chimie, et après, on fait passer à nos élèves un oral. Donc, excuse-moi, quand on dit qu'on baisse le niveau et on baisse les exigences, moi, je me rappelle, dans ma génération, alors moi, je suis un peu vieux, hein, eh bien, le brevet, on me l'a donné. Alors, voilà, bon, peut-être que j'avais des notes suffisantes, mais en tout cas, je ne l'ai pas passé. Donc, non, franchement, je veux dire, on met un peu la pression sur nos élèves, quand même. Hein. Le système français, c'est un système qui met un peu la pression. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais il faut y réfléchir aussi, parce qu'au niveau du collège, il faut trouver un juste équilibre entre... tout ce qui est autour des parcours éducatifs et il faut se laisser du temps pour faire un peu autre chose aussi, hein, pour nourrir l'expérience collégienne.
Et ben ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Le carnet de correspondance, ben il est sur les ondes hein, de CFM Radio, mais vous le retrouvez aussi en podcast sur cfmradio.fr et je suis sûr qu'il va traîner sur l'ENT du collège de Cordes aussi pour que vous, parents d'élèves qui sont au collège de Cordes, vous y allez directement, vous ayez la voix comme ça du principal qui vous dit ce qu'il pense de la vie au collège, qui vous donne aussi peut-être des conseils sur sa manière de voir le système éducatif d'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec ou pas, il n'y a pas de problème.
Voilà,
hein.
Voilà.
Et surtout, si vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs, faites-nous signe sur redaction.cordes@cfmradio.fr. L'émission, c'est Carnet de correspondance. On se retrouve dans 2 semaines pour parler du collège de demain. Merci Jean-Marc.
Allez, à bientôt Jack.
CFM, coup de projecteur.
La CASA, c'est le nom qui a été démocratiquement choisi pour identifier le centre social intercommunal du Carmozin-Ségala, qui se trouve désormais au 32 terre de l'avenue Bouloc-Torcatis. Ce samedi, de 14h à 17h, ce sont les portes ouvertes à l'occasion de découvrir l'équipe bénévole, mais également salariée, ainsi que les activités et projets qui sont proposés par la structure qui est dirigée par Camille Allard.
C'est vraiment un endroit qui est fait pour les habitants et par les habitants. Donc, en tant qu'habitant, si j'ai un projet pour ma commune, mon quartier ou un projet que j'ai envie de mettre en œuvre, il n'y a aucun problème. Les salariés de la CASA peuvent accompagner les habitants dans tous ces projets-là. L'objectif d'un centre social, c'est vraiment le lien social. Donc, c'est faire du lien entre les différents habitants du territoire et de pouvoir rencontrer des personnes au centre social au travers d'activités qui sont un peu des prétextes à la rencontre et à aussi donner accès à la culture, aux loisirs, au débat, à l'échange, à la citoyenneté. Mais l'idée, c'est vraiment de se rencontrer, d'échanger, de construire des choses ensemble. Donc, aussi bien sur des volets plus collectifs, des projets plus collectifs à l'échelle, comme je vous le disais, d'un quartier ou d'une commune, mais aussi d'intérêt plus général pour sensibiliser aussi les habitants d'un territoire à différentes thématiques comme l'égalité, la lutte contre les discriminations, la lutte contre l'isolement, etc.
Et pour découvrir les animations et les services qu'ouvre la CASA sur le Carmozin-Ségala, participer aux portes ouvertes ce samedi de 14h à 17h, l'occasion également de rencontrer les équipes bénévoles et salariés. La CASA se trouve au numéro 32 terre de l'avenue Bouloc-Torcatis à Carmo.
CFM, coup de projecteur.
Les informations sont à suivre sur CFM Radio, le Mac du Tarn. C'est tout pour aujourd'hui.